Guy de Maupassant, sous le pseudonyme de Guy de Valmont, la plage de Dieppe. De toutes les plages de la Manche, celle de Dieppe est peut-être la plus élégante et la plus riche. Trouville est aujourd'hui bien loin de son ancienne splendeur. Ce pays avait de hauts protecteurs qui ne sont plus, et sa gloire s'en montre sans partir avec eux. Le rivage d'Étretat, avec ses merveilleuses falaises et sa mer bleue comme la Méditerranée, reste encore presque inaccessible et n'est peuplé que d'artistes qui travaillent et des gens riches qui n'ont point besoin de venir à Paris pendant l'été. Le pays est petit, du reste, et ne pourrait convenir à beaucoup de monde. C'est entre deux collines vertes, une poignée de maisons, qu'on dirait jetées du ciel et restées debout au hasard de leur chute, tant elles sont singulièrement plantées dans tous les sens. Les deux versants de la vallée, peuplés jusqu'à l'eau de chalets enfouis sous des arbres, se précipitent souvent dans la mer en falaise droite haute de 100 mètres que terminent les deux arches célèbres appelées la porte d'aval et la porte d'amont. Le pays, en grande partie, appartient à des propriétaires parisiens, et par conséquent, jusqu'à ce qu'un chemin de fer lui donne plus d'extension dans la vallée, il ne pourra recevoir les grandes foules qui se ruent chaque année vers la plage de Dieppe. Dieppe est une ville, et son faubourg, le Pelet, est presque aussi important qu'elle. Des armées de baigneurs peuvent s'y loger sans peine. Dieppe a un chemin de fer, des express directs envers Paris, ce qui permet aux hommes qui travaillent à la ville, tandis que leurs femmes se distraient à la campagne, de venir en 3 heures, les surprendre et retourner le lendemain à leurs affaires. Dieppe est un grand port de mer, ce qui donne aux étrangers, outre les distractions des bains et du casino, celle de l'entrée et de la sortie des navires. Et en outre, Dieppe est au service de paquebots réguliers avec New Haven, qui sèment chaque jour sur le port des caravanes d'anglais en veston gris, promenant leur lenteur impassible et leur éternelle lorgnette, de vieux châteaux qui couronnent la côte jusqu'à l'extrémité des jetées où ils comptent les navires qui passent. Et chaque fois que le bâtiment portant les couleurs britanniques passe, ils disent avec la haute gravité de leur orgueil national, « Oh, toujours pavillon anglais !» De plus, à Dieppe, tout coûte fort cher, et les gens riches y vont naturellement pour la seule raison qu'ils payent la 10 francs, ce qui vaut d'ailleurs 100 sous. Autant sa rivale, la plage d'Étretat, est petite, simple et numérant fermée, autant celle de Dieppe est opulente, luxueuse, magnifique, de toilettes chamarrées, bruyante et largement ouverte. La mer s'y développe dans un horizon immense que donne sur la côte à la gauche du casino, que domine ce vieux château flanqué de tours, bâti en 1433 par les communes du pays de Caux, révoltées contre les Anglais. Chaque jour, vers 10 heures du matin, tous les jeunes gens se pressent au bord de l'eau parce que toutes les jeunes femmes prennent leur bain. On admire souvent, on médit davantage. Là, sous les artifices de la toilette, sont dévoilés, depuis les amples mystères du corsage jusqu'à la pompeuse fraîcheur du teint. Et tandis que les vraiment belles montrent beaucoup, les autres qui ont laissé dans les cabines leur séduction artificielle voilent pudiquement leur insuffisance dans un large peignoir bien fermé. Numéro 1. À côté du vulgaire costume de bain tout noir qui semble un sac où l'on s'enferme, on aperçoit d'autres, tantôt bleus et tantôt rouges, coquets et savants, mariés à la nuance de la peau et à la couleur des cheveux. Il y a deux façons de passer l'après-midi. Lorsque le temps est douteux, ou lorsqu'on a reçu une toilette neuve qu'on veut montrer, on se rend au casino. On s'assied à l'abri du soleil, au milieu de la foule élégante, en face de la mer. On écoute la musique et l'on rêve un peu à ce que doit passer de votre robe Madame une telle. Là-bas, avec sa toilette de bergère antique, entre les deux vieux jolis beaux à cheveux blancs, comme un autre en avancé entre deux hivers. S'il fait du soleil, on prend une voiture et l'on va en bande dans la forêt d'Arc. Elle est entre deux vallées où coulent deux rivières, Léone et la Béthune, qui se réunissent pour former l'Arc. C'est une belle et vraie forêt, épaisse, profonde, pleine d'oiseaux, pleine de bêtes, pleine de bruit. Les grands arbres se courbent sous le vent puissant de la mer qui les fait gémir plus fortement que la brise amollie des plaines. On y sent la terre grasse qui enfante les herbes, les feuilles et la résine des sapins. Là, dans cet enveloppement de verdure, les belles dames passent avec des toilettes roses, tantôt folles, tantôt grisé par les effluves de la sève, tantôt grave et comme alangui. Elle regarde ces arbres énormes qui ressemblent guère aux bosquets en carton des environs de Paris, où courent des lapins apprivoisés, chantent des serins dans les cages. Quelquefois, on va jusqu'au château de Touques, où naquit Gabriel d'Estrée, et quelquefois jusqu'à celui de Longueville, qui fut à Du Guesclin et sur Dunois. Le soir, on retourne au casino. On y danse, on y écoute de la musique, on y voit jouer des vaudevilles et des opérettes. Hélas, on y perd aussi bien des réputations, que voulez-vous? Ces messieurs ne viennent que le samedi. Il faut bien se distraire un peu quand on est seul. Il n'y a que les mauvaises langues, d'ailleurs, qui peuvent y trouver à redire. Et on se moque des mauvaises langues.